Où à deux reprises, Jésus cite le même texte de l'Ancien Testament. C'est peut-être même unique, en tout cas c'est exceptionnel. Deux fois, Jésus, dans l'Évangile, en deux occasions différentes, cite le même texte de l'Ancien Testament, c'est même le prophète Osée. Alors, Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. Alors, je triche d'habitude, j'ai une Bible à gros caractère. Là, je vais être obligé de temps en temps de mettre des lunettes et d'avoir vraiment mon nom. Matthieu chapitre 9, verset 9, on va aller jusqu'au verset 13. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie, c'est le texte d'Osée, je désire la bonté et non les sacrifices. » Vous avez miséricorde, certainement, mais on peut traduire bonté aussi. « Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Amen. Amen. Alors, d'abord, ce repas a lieu chez Matthieu. Ça, c'est l'évangile selon Marc, l'évangile parallèle. Il nous révèle que Jésus, venant de l'appeler, il a organisé un repas, et c'est pour cela qu'il y a tous ses collègues, hein, ses collègues PAG, tous ces gens, cette société de nantis, mais aussi cette société méprisée, considérée comme pécheur. Moi, dans ma Bible, j'ai en note pécheur, c'est-à-dire jugé comme tel par ceux qui se croyaient justes. Intéressant. Alors, quand c'est écrit que c'était des PAG ou des collecteurs d'impôts et des pécheurs, c'est pas forcément comme vous pourriez le penser, vraiment des grands pécheurs, mais c'était, ils faisaient partie de la catégorie des pécheurs aux yeux des pharisiens. Voilà. C'était les PAG et les pécheurs. Premièrement, Jésus renonce à sa réputation. Il va vers les exclus. Pourtant, il va être jugé à cause de cela. Il renonce à sa réputation. Parfois, cela nous flatte de côtoyer les gens de la bonne société. On peut dire, ah, moi, j'ai mangé avec le sous-préfet. C'est flatteur. Jésus ne mangeait pas avec le sous-préfet. Il mangeait chez les gens chez qui on n'allait pas. Et pour cela, ça lui valait des critiques. Il renonçait à sa réputation. Paul a dit qu'il apprit à servir Dieu dans la bonne comme dans la mauvaise. Réputation. Si garder notre réputation, c'est entretenir les divisions entre les hommes, alors je crois que nous avons tort. Jésus refuse les divisions entre les hommes, entre ces catégories, des bien-pensants, des religieux et des pécheurs. Il a mangé chez les pharisiens, ça c'est plus l'évangile selon Luc qui nous le montre, et il a mangé aussi chez les pécheurs. Attention de ne pas cataloguer les gens. C'est aussi une leçon que l'on peut retenir. Hein? Les païens sont-ils des mauvais ou des malades? Comment voyez-vous vos collègues de travail? Certains membres de votre famille qui ne sont pas convertis. Vous pourriez peut-être les voir systématiquement comme des orgueilleux, comme des gens méchants. Et je peux le comprendre parce que parfois, quand on a des collègues sur le dos pendant un certain temps, on en a assez. Mais ayons un regard différent, celui de Jésus. Les uns leur disaient d'eux des pécheurs, lui il dit des malades. Des malades. Est-ce que forcément, il faut voir que sous cet aspect-là, les gens sont mauvais? Je pense que si les gens souffrent, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Jésus voyait plutôt dans sa compassion des personnes qui avaient besoin du Seigneur, plutôt que des personnes pour lesquelles il n'y avait pas d'espoir. On peut aussi estimer qu'il y a des mauvais chrétiens dans l'Église. Parce qu'après, on ne s'arrête pas là, vous savez. Quand on a un esprit parisien, quand on juge même les païens, vous savez, cette mentalité, on l'a aussi dans l'Église après. Et on peut catégoriser dans l'Église, alors il y aurait des chrétiens qui seraient bien et des chrétiens qui ne seraient pas bien. Des mauvais et des bons. Il me semble que c'est qu'à la fin du monde que Jésus triera les bons et les mauvais poissons. C'est lui qui le fera. Est-ce que... Je pense que le Seigneur a aussi ce regard de compassion dans l'Église. On peut parfois dire, oh, bah, il y a un chrétien là, franchement, il regarde des films à la télévision. Franchement, c'est grave. Ou une chrétienne de dire, mais quand même, cette chrétienne-là, franchement, avec ses enfants, etc. Les sujets sont nombreux. Ou alors on peut prier les uns pour les autres. Demander la grâce de Dieu. Et s'aider les uns les autres. Amen. Se donner des conseils. Alors, bon chrétien, mauvais chrétien dans l'Église. Bon, moi je pense qu'on est tous des mauvais chrétiens. Et qu'on est tous des bons chrétiens par la grâce de Dieu. Alléluia. Et pourtant, Matthieu sacrifiait beaucoup. Alors, les pharisiens se drapent là dans leur certitude religieuse en jugeant ce repas. Mais Matthieu avait fait plus que tous les pharisiens. Matthieu avait abandonné son métier très lucratif. Ça valait le coup d'être collecteur d'impôts. Et il a été choisi par le Seigneur et il s'en va et il va suivre le Seigneur dans son ministère itinérant. Que c'est beau quand dans l'œuvre de Dieu, il y a des frères qui, pour entrer dans le ministère, sacrifient une situation confortable. Amen. Que prions pour cela. Que le Seigneur suscite à nouveau des ouvriers. Des couples qui travailleront d'eux, auront une super maison, une belle vie, mais qui, quand ils entendront l'appel de Dieu, ils auront une autre vie, moins belle, d'un point de vue matériel, mais tellement meilleure de ce qui est de la vie éternelle. Alléluia. Alors, Matthieu fait ça, et les religieux le jugent. C'est dommage. Il a tout donné. La réponse de Jésus, elle est évidente, elle est logique quand on y pense. On dit, les médecins, les malades, ils ont besoin de médecins. C'est une évidence. Mais ça, pourtant, des fois, ce qui est évident pour le Seigneur ne l'est pas pour nous. Parce qu'on raisonne à l'envers, souvent. Nous, des fois, on voudrait que les gens, on en termine avec eux. Mais le Seigneur dit, mais justement, s'ils sont mauvais, ils ont besoin d'aide. Amen. Nous aussi, dans l'Église, vous savez, c'est facile. L'amitié, c'est facile quand tout va bien. Hein. Mais si l'un d'entre nous, ou l'une d'entre nous, à un moment donné, face à un moment très difficile, dans la chair, vous deviendrez désagréable. On est tous pareils. Quand on est dans la chair, on devient désagréable. Et vous isolerez. Vous ne voudrez pas trop que des chrétiens viennent vous voir. C'est peut-être dans ces moments-là qu'il faut encore le plus aimer, le plus aider. Si nous sommes amis, que quand nous allons bien entre nous, qu'est-ce que notre amitié? Le véritable ami dans l'adversité se révèle être un frère. Alléluia. Un frère. Il faut que nous puissions compter les uns sur les autres. Amen. Ne raisonnons pas à l'envers. Nous avons souvent tendance à critiquer plutôt que d'aider. Les pharisiens critiquaient. Et pécheurs, et tu vas chez eux. Au lieu de critiquer, aidons. Agissons. Travaillons. Vous connaissez ce proverbe populaire, la critique est facile, l'art est difficile. Eh oui. Les pharisiens jugeaient beaucoup parce qu'ils étaient jaloux et sentaient leur influence diminuer. Au plus Jésus était populaire, était cru, était suivi, au plus ils étaient irrités. Parce qu'en fait, ils perdaient de leur pouvoir sur la masse. Et ça, on est terrible, parce que vous savez, je parle des pharisiens, mais je parle de nous, hein. Les pharisiens, bien sûr... on va toujours dire, les pharisiens, ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas bien. Mais vous savez, dans l'évangile, s'il y a des pharisiens, c'est pour parler de nous, de notre côté charnel, quand même. On peut tous avoir des tendances pharisiennes. Là aussi, il ne faut pas éviter de dire « Ah, il y a des chrétiens, ils sont légalistes, et des pharisiens, mais moi je suis cool. Moi, je suis cool, je ne suis pas pharisien. » Vous savez, la chair de tout le monde ressemble à la chair de tout le monde. Et on peut avoir cette tendance à juger beaucoup par jalousie ou parce qu'on veut encore garder une grande influence. C'est terrible. Nous défendons parfois notre pouvoir au détriment des gens. C'est terrible, ça. Hein, si les personnes vont bien dans le Seigneur et que de ce fait, elles ont moins besoin de nous ou nous aurions peut-être moins d'influence sur elles, que Dieu soit béni. Alléluia. Les âmes appartiennent au Seigneur, à personne d'autre que lui. La bonté de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit deux fois la bonté plutôt que les sacrifices. La bonté plutôt que les sacrifices. C'est la dénonciation d'une religion sans amour, sans compassion, sans miséricorde. Faites des sacrifices, faites beaucoup de choses pour Dieu. On est au top dans le domaine de la religion évangélique, mais sans amour. La religion sans amour. Jésus la dénonce. Bon, le remède, hein, il le dit, c'est la repentance quand même. La bonté de Dieu n'empêche pas la vérité. Le médecin vient aider le malade, mais en lui préconisant le vrai remède. Et le remède ici, c'est la repentance. La bonté de Dieu ne se fait pas au détriment de la vérité. Et si on aime vraiment les gens, justement, le but, ce ne sera pas que l'Église y ait du monde, et du monde perdu. Mais si nous aimons vraiment les gens, ça sera dur. Nous aurons le courage de leur dire ce qui leur sera utile. Jésus, quand il allait à les entretiens privés que Jésus avait avec les gens, étaient toujours fondés sur la vérité, avec la Samaritaine. Vous vous rappelez ? Va chercher ton mari. Allez. Ça fait mal. Alors, il était proche d'elle, mais il l'a soignée par la vérité. Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8, le deuxième passage où Jésus cite ce verset d'Osée. Alors, c'est parce qu'on a été plus long, j'aurais voulu aller lire dans Osée, mais si vous le voulez, vous pourrez lire Osée chapitre 6 chez vous. Et ça pourrait être intéressant d'en reparler, parce que Osée chapitre 6 commence avec une fausse repentance. Mais peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué. Alors, lisez-le chez vous, Osée chapitre 6. Et j'aurais beaucoup de joie à ce que nous en reparlions en aparté après, si vous le souhaitez. Matthieu chapitre 12, verset 1er. Matthieu chapitre 12, verset 1er. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. N'avez-vous pas lu dans la loi que, dans les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Je lis ces temps-ci dans cette traduction et je trouve qu'il y a parfois des façons de traduire qui mettent en relief des éléments. Ici, Jésus est appelé le Seigneur du sabbat. Le Seigneur du sabbat. Alors, c'est encore les pharisiens ici, hein, vous avez remarqué. C'est encore les pharisiens. Alors, voilà. C'est encore aussi un rappel de l'Écriture. N'avez-vous pas lu? Alors, Jésus, souvent, a essayé de faire réfléchir sur l'Écriture. Est-ce que vous l'avez remarqué quand vous lisez les évangiles? Souvent, Jésus a essayé de faire réfléchir sur l'Écriture. Ici, c'est un des exemples. N'avez-vous pas lu? Et ça, c'est une pédagogie très importante. C'est d'essayer d'amener les gens à comprendre par eux-mêmes la parole de Dieu comme ils doivent la comprendre. N'avez-vous pas lu dans les Écritures? C'est un peu humiliant pour des pharisiens. Ils savaient réciter par cœur des pans entiers de l'Écriture. Il y a un rabbin juif des premiers siècles qui disait que dans son école, parce que jusqu'à 12 ans, on apprenait par cœur des pans entiers de l'Ancien Testament, il y a 12 ans, on avait l'âge adulte, on avait l'âge adulte religieux. Et bien, il disait que avec les élèves de son école, il pouvait leur faire réciter tout l'Ancien Testament. Parce que chacun savait par cœur des pans entiers de l'Ancien Testament. Et s'il réunissait ses élèves, sa classe pouvait réciter tout l'Ancien Testament. Quand même, c'est un peu mieux que notre école du dimanche, j'ai l'impression. Et c'est à eux que Jésus dit, n'avez-vous pas lu? C'est humiliant de lire autant la parole depuis tant d'années et de si mal la comprendre. Vous ne trouvez pas? Et nous avons besoin non pas de la comprendre comme on nous l'a appris, mais de la comprendre comme Jésus l'a appris. Et alors là, c'est tout un programme. Comprendre la parole en Jésus, c'est différent qu'une compréhension religieuse. Ce n'est pas la même chose. Jésus respecte la loi et le sabbat. C'est faux ce qu'ils disent, que Jésus ne le respecte pas. C'est faux. Jésus respecte la loi et le sabbat. Et il l'a toujours respecté. En réalité, il n'a pas contrevenu, il n'a pas enfreint le sabbat. Mais il ne pratiquait pas le sabbat à la façon des pharisiens. C'est différent. Jésus respectait le sabbat, mais pas à la façon des pharisiens. Nos principes ne doivent pas favoriser le jugement des autres. Vous savez, ils avaient leurs principes. Ils avaient leur façon de concevoir la pratique du sabbat. Pourquoi pas pour eux, à la limite, s'ils voulaient le faire pour eux de cette façon-là, d'une façon très rigoriste. Et pourquoi pas? Mais là où c'est embêtant, c'est quand on a des principes qui vont nous amener à davantage juger les autres. Que l'on s'impose des règles, mais je ne suis pas contre. Par contre, qu'à cause des règles que nous nous imposions, nous pensons que tout le monde doit se les imposer et que s'ils ne les suivent pas, alors ils sont mauvais, là, nos règles nous rendent pire que meilleurs. Alors j'ai lu ceci. Les Juifs avaient 39 catégories d'activités interdites pour le jour du sabbat. Parce que à la loi, il y avait les explications des Juifs de la loi. Hein. 39 catégories d'activités interdites, dont l'une d'entre elles, la moisson. Alors, l'occasion était trop belle, les pharisiens voient en plein champ, à l'époque de la moisson, les disciples qui frottent des épis. Ils moissonnent! Ils moissonnent le jour du sabbat! Ils ne moissonnent pas. Ils prennent quelques épis, les frottent, ils mangent. Vous voyez comment on est excessif des fois quand on a des règles? Dès que quelqu'un semble enfreindre quelque chose, on va trop loin. Bon, il ne moissonnait pas. Moissonner aujourd'hui, ça va, c'est interdit, on peut se voir. Mais prendre quelques épis, comme d'ailleurs dans la loi c'était écrit, on avait le droit de se servir modérément dans les champs pour se nourrir. Ceux qui n'avaient pas de moyens, les apôtres n'avaient pas de moyens. Jésus et les apôtres vivaient par la foi. Ok, respecter la loi. Le légalisme, c'est l'attachement aux règles. Comme notre société. Vous savez, ce qui est curieux actuellement en France, c'est qu'on est très permissif. On est très immoral. Mais en même temps, on a de plus en plus de règles, de procédures. On est très légaliste en même temps. C'est curieux. Hein? Le Seigneur va beaucoup plus loin. Il utilise l'opposition des pharisiens pour les faire réfléchir sur l'Écriture, et il leur parle de choses déroutantes. Les prêtres, et à la fois saints, les prêtres, le jour du sabbat, ils continuent leur ministère. Vous savez, si parfois on pourrait dire, ah, dimanche, le dimanche chrétien n'est pas une nouvelle version du sabbat. Parce que le dimanche, les pasteurs travaillent, par exemple. Hein. C'est la même logique que Jésus emploie ici. Le samedi, le sabbat, les prêtres continuaient de travailler, sans entendre le sabbat. Il a essayé de leur montrer que le sabbat, ce n'est pas seulement la cessation d'une activité, c'est une relation avec Dieu. Et si les prêtres qui servaient Dieu permettaient la relation avec Dieu, ils étaient dans l'esprit du sabbat, même s'ils travaillaient. Le sabbat, ce n'était pas simplement ne rien faire, c'était surtout se consacrer à Dieu. C'était ça, l'esprit du sabbat. Et puis alors, quand il parle aussi de lui qui est plus que le temps, ça c'est très fort. Le temps, ça sert à quoi? Ça sert à réunir les gens pour qu'ils s'approchent de Dieu. Et c'est en Jésus que nous sommes réunis pour nous approcher de Dieu. Alléluia. Donc Jésus, il est plus que le temps. Plus que le temps. Alors en fait, il faut peut-être... Les accusateurs sont appelés à se remettre en cause. Et ça, vous ne trouvez pas que c'est dur pour nous tous? Accuser, critiquer, c'est facile. Mais accepter de réfléchir et de se remettre en cause, ça, c'est pas de nous. Et les pharisiens, la majorité d'entre eux, ne savaient pas se remettre en cause. Ils ne savaient pas faire tout bien. Je préfère qu'il y ait des enfants qui ouvrent les portes, qu'il n'y ait pas d'enfants. Ne vous inquiétez pas. Les parents aussi, soyez tranquilles. Donc je disais, c'est beaucoup plus facile d'accuser que de se remettre en cause. Je vais faire peut-être la différence entre l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Alors, les exceptions existent aussi dans ce passage. David a mangé les pains consacrés. C'est vrai que c'était interdit. C'est vrai que la première fois que j'ai eu ça dans l'évangile, je me suis déjà dit, j'ai lu déjà ce passage dans la vie de David. Je ne me suis jamais dit que c'était pas normal. Et c'est vrai que c'était pas normal. David n'avait pas le droit de manger des pains consacrés. Vous vous rappelez en quelle occasion Saül le poursuit dans sa fuite. Il n'a pas le choix, il fait ce qu'il peut, et il arrive à Nob. Il y a un sacrificateur qui est là, et il lui dit quand même, bon, les hommes n'ont pas eu de relation avec des femmes, vous êtes tous purs, oui, bon, allez, tu peux prendre les pains consacrés. Oui, d'accord, mais en fait, la loi interdisait. C'était interdit. Il y a eu une exception. Il y a eu une exception, même dans l'Ancien Testament. Là où la loi était terrible, il y a quand même eu une exception. Alors, bien aimé, je crois que nous avons raison d'avoir des principes et des règles, parce que dans la vie, sans règles, sans principes, c'est impossible. Mais les règles sont faites pour notre bien, pas pour notre mal. Et il peut toujours avoir des exceptions. Amen. Vous savez, des fois, par jalousie, on dit, il faut que ce soit pour tout le monde pareil. Et c'est pas juste. À moi, on m'a dit non, mais à lui, on a dit oui. Mais il peut y avoir des exceptions. Non? Non, mais c'est pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste? Je crois que ce qui est juste, c'est par l'Esprit de Dieu se laisser conduire et savoir ce qui est bon pour chacun selon les situations. Alors il faut des principes, il faut des règles, mais il faut avoir de la souplesse aussi. De la souplesse pour nous permettre parfois de faire exception. Je ne pense à rien de particulier, hein, mais je me laisse enseigner par ce texte, c'est tout. Le vrai problème chez les pharisiens, en fait, au final, c'était leur manque d'amour, tout simplement. Et Jésus leur dit, si vous saviez ce que veut dire la bonté plus que les sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Je me souviens d'un de mes formateurs qui a plus de 20 ans à prêcher sur ce texte à l'Assemblée de Dieu de Lille. Ça m'a marqué pour toute ma vie. Si vous saviez que Dieu préférait la miséricorde au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Et que Dieu nous donne de l'amour dans le monde, entre nous et envers les familles. Amen. Parce que je crois que si nous manquons d'un autre, nous allons condamner les innocents. Et ça, Dieu juge. Alors, Jésus est Seigneur du sabbat. Ça veut dire qu'il est plus grand que la loi. C'est une affirmation hérétique pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Ce qui m'a toujours étonné chez le maître, honnêtement, là, il me semble que peut-être il aurait pu simplement expliquer aux Parisiens et dire, vous savez les Parisiens, je n'ai pas violé le sabbat, je vais vous expliquer pourquoi. Mais non, il va plus loin dans leur réflexion, il les remet encore plus en cause, et même à la fin, il dit, je suis seigneur du sabbat. Mais pour un juif, c'est blasphématoire, ça. C'est hérétique. Parce qu'en fait, Jésus cherchait à ce qu'il croit en lui. Amen. Et si nous ne croyons pas que Jésus est Seigneur, toute notre religion ne sert à rien. Toute leur religion et leur rêve, excessive parfois, dont ils se targuaient pour dire qu'eux, c'était des bons, s'ils ne croient pas que Jésus est Seigneur, ils étaient perdus. Alors ce n'est pas pour les exciter encore plus que Jésus parlait à ce cause-là, c'était pour les sauver. Alléluia, pour les sauver. En conclusion, simplement, si vous pouviez retenir ceci ce soir, Jésus, deux fois, a cité Osée 6 en disant « La bonté vaut mieux que les sacrifices ». Et vous aurez appris quelque chose ce soir. Vous repartez en disant « Ah ben je sais que dans l'évangile, selon Matthieu, c'est unique, Jésus a repris Osée deux fois, et ce que je dois retenir, c'est que la bonté vaut mieux que les sacrifices. » Amen.